J'ai intitulé ce message 6 jours avant la Pâque, que j'ai trouvé bien sûr au début du chapitre 12, car en fait ce texte nous raconte un moment de la vie de Jésus entouré d'un certain nombre de gens. Et j'ai trouvé ce passage important, même s'il était un peu long, je dois le reconnaître, plus long que ceux que je fais lire d'habitude, car je crois que il y a autour de Jésus, pendant ces quelques heures, environ une semaine avant Pâques, donc nous sommes exactement dans le bon timing. Je ne prêche pas toujours le jour de Pâques sur Pâques, le jour des rameaux sur les rameaux, mais j'ai pensé que cette semaine, cette année, qu'il était bon de le faire. Nous voyons ici dans ce texte, autour de Jésus, un certain nombre de gens qui gravitent. Ces gens, certains d'entre eux, gravitent autour de Jésus depuis longtemps, depuis près de 2-3 ans. Nous savons, Jésus va mourir dans quelques jours, dans une semaine, dans 6 jours. Et ces gens sont autour de lui, et la plupart d'entre eux, pour ne pas dire chacun d'entre eux, à part peut-être les derniers, ce groupe de Grecs qui sont venus auprès de Jésus, enfin auprès de 2 de ses disciples, en espérant avoir un rendez-vous avec Jésus, ils ont dit simplement « Nous voudrions voir Jésus ». À part eux, tous les autres personnages que nous avons rencontrés dans ce texte connaissent déjà Jésus, soit personnellement, soit pour l'avoir vu et entendu déjà un certain nombre de fois. Alors je vous propose, pendant les quelques minutes que nous avons devant nous dans ce culte en français, de parcourir un peu ce texte et d'aller à la rencontre de ces gens qui tous ont une attitude particulière, une relation particulière avec Jésus. Le premier groupe, c'est un groupe que l'on rencontre tout au long de l'Évangile, c'est la foule. Très souvent dans l'Évangile, il nous est dit « la foule » ou « une foule » ou « des foules » accompagnaient Jésus pendant son chemin sur la terre de Palestine. La foule, ici, nous la voyons qui acclame Jésus. Mais cette même foule, à quelque chose près, à quelques unités près, cette même foule, dans 6 jours, va réclamer qu'il soit mis à mort. Dans un même mouvement, sous la conduite des chefs religieux, la foule accompagne Jésus. Vous savez que dans la foule, il y a beaucoup d'anonymes. Parfois, il m'est donné de prêcher l'Évangile dans des églises où il y a beaucoup de monde. Il m'est arrivé parfois de prêcher devant 1000 personnes, un peu plus. J'ai rencontré un jour un ami qui me disait qu'il aimait fréquenter une grande église, une église qui fait au moins 1000, sinon 2000 personnes, et je lui ai dit « Mais pourquoi aimes-tu les grandes églises ?» Il me dit « Parce que dans les grandes églises, on peut être complètement anonyme, on peut être complètement inconnu. » Et alors, c'est ce qui lui plaisait. Il m'avait semblé à moi plutôt qu'on a intérêt à être dans une église où on peut se faire connaître, où on peut apporter quelque chose. Lui préférait une église qui soit comme une foule, où on vient, on écoute, on observe et puis on repart. Alors on reçoit toujours, mais on ne donne jamais rien. La foule qui accompagne Jésus prend rarement position, elle l'écoute. À un certain moment, Jésus dit à cette foule, « Vous me suivez, vous me cherchez partout ?» parce que cette foule l'avait cherché pendant plusieurs heures et il avait enfin trouvé. Et Jésus leur a dit, c'est dans Jean chapitre 6, verset 26, « Vous me cherchez non pas parce que vous m'avez vu accomplir des miracles, mais parce que je vous ai donné à manger. » Parce que quelques jours avant, Jésus avait accompli ce miracle que l'on appelle la multiplication des pains. Alors Jésus leur fait ce reproche, « Vous me cherchez parce que j'ai pourvu à vos besoins, enfin votre besoin du moment. Je vous ai donné à manger. » alors que vous pensiez que vous n'auriez rien à manger. Et c'est pour cela que vous me suivez. Mais un peu plus tard, nous voyons cette foule accompagner donc Jésus. Ici, elle l'acclame, et dans quelques jours, elle va demander sa mort. La foule n'a pas vraiment d'âme. La foule suit les modes. La foule suit les mouvements de pensée. On voit cela dans tous les pays du monde et dans tous les régimes politiques, dans les dictatures, la foule suit par obligation. On a l'impression qu'elle est tout à fait d'accord, mais elle suit parce qu'elle a peur. Et puis dans les démocraties, on voit aussi les foules parfois suivre un tel ou suivre un tel autre. Mais la foule n'a pas d'âme. La foule, c'est un ensemble de gens qui suit dans un sens et qui demain suivra dans l'autre sens. Jésus a dit plusieurs fois dans l'Évangile qu'il avait appris à connaître ces gens-là. Il avait appris à lire dans leur cœur. Jésus s'est plutôt intéressé, non pas aux foules, mais à chaque personne, individuellement, même dans la foule. Le deuxième groupe de gens que nous retrouvons dans ce texte, ce sont ceux que l'Évangile appelle les chefs religieux. Les chefs religieux constituent un groupe assez intéressant. On devrait dire, c'est un groupe qui est forcément intéressant puisqu'ils ont fait de la religion l'essentiel de leur vie. Ils ont décidé de consacrer toute leur vie à l'étude, nous parlerons aujourd'hui de l'Évangile, à l'étude de la parole de Dieu, à l'étude de tout ce qui concerne Dieu. Souvent, ce sont des théologiens qui ont étudié toutes les choses de l'Esprit. Mais ces chefs religieux, dans l'Évangile, sont souvent présentés sous un regard plutôt négatif. Ils sont responsables de faire connaître Dieu au peuple. Mais dans l'Évangile, nous voyons que lorsque Jésus arrive, lui qui, selon les termes même de ses contemporains, n'a pas étudié, n'a pas été dans une école rabbinique, n'a pas fait, on dirait aujourd'hui, des études de théologie, lui qui n'a pas été ordonné, je ne sais pas si je dois dire pasteur, prêtre ou autre chose, peu importe, lui qui n'a pas été ordonné officiellement, il voit les foules le suivre. S'il n'y avait que ça, c'est déjà beaucoup. Mais c'est déjà cela qui indispose les chefs religieux qui ne voient pas de foule les suivre partout. Ils voient déjà les gens venir dans la synagogue, le jour du culte, le jour du service religieux. Mais ils ne voient pas des foules les suivre partout. Jésus non seulement parle de manière à ce que tout le monde vienne l'écouter ou ait envie de venir l'écouter, il parle et les gens, quand ils l'entendent, se sentent beaucoup mieux qu'avant, encouragés. Ils sentent que quelque chose est arrivé dans leur vie parfois même. Mais Jésus, en plus, fait des choses prodigieuses. Il accomplit des miracles. Il guérit des malades. Parfois même, il lui était arrivé juste quelques jours avant ce texte, de ressusciter un mort. Alors la foule le suit, mais les chefs religieux sentent que leur influence diminue fortement. Et ils conçoivent la dernière chose que des chefs religieux devraient concevoir. Ils conçoivent même de se débarrasser de Jésus en le mettant à mort. Et nous avons lu d'ailleurs un texte où il est dit que non seulement ils voulaient faire mourir Jésus, mais ils voulaient faire mourir aussi Lazare, cet homme que Jésus avait ressuscité d'entre les morts quelques jours avant, parce que lui, Lazare, c'était la preuve de trop, de ce que Jésus avait un grand pouvoir, que n'avaient pas les chefs religieux. Alors il y a dans notre petite panoplie de personnages un autre personnage, en numéro 3, un personnage malheureusement connu. Je dis malheureusement parce que c'est pour une mauvaise raison qu'il est connu. Ce personnage s'appelle Judas. Vous savez que maintenant, on a même une expression, on dit de quelqu'un, c'est un Judas. C'est pas un compliment, j'espère qu'on ne vous a jamais fait cette remarque à vous personnellement. Essayons de l'éviter. Un Judas, c'est un traître. Pourtant, Judas est un personnage de la Bible particulièrement intéressant. C'est un homme qui a été choisi pour être l'un des accompagnateurs privilégiés de Jésus, l'un de ceux qu'on a appelés les disciples de Jésus. Donc des hommes, des disciples, voire même des apôtres, des disciples, c'est-à-dire des hommes qui vont suivre Jésus pour apprendre à son contact. Le mot disciple est de la même racine dans la langue latine que le mot qui veut dire élève, écolier. Ce sont donc des gens qui vont apprendre à son contact. Quel privilège d'être pendant environ 2-3 ans constamment avec Jésus pour apprendre tout ce qu'il a à nous apprendre. Judas a été choisi, nous est dit dans l'Évangile, que c'est après avoir prié pendant toute une nuit que Jésus a choisi ses disciples, donc Judas, parmi les autres, parmi les 12 autres. Judas a vécu des choses extraordinaires puisqu'à un certain moment, il est dit que Jésus a envoyé ses 12 apôtres pour qu'ils puissent prêcher l'Évangile eux-mêmes dans les villages environnants, et il leur a donné le pouvoir même de guérir les malades, de chasser les démons de libérer les gens. Judas était l'un de ceux-là. Dans un texte de l'évangile de Marc, il nous est même dit qu'à un certain moment, dans Marc chapitre 6, verset 12, que les disciples sont revenus tout joyeux d'avoir pu guérir des malades et chasser des démons et prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus. Judas était là. Judas était l'un d'eux. Mais la Bible nous le présente également sous un autre regard, comme un homme qui avait été choisi, cela ce n'est pas encore mauvais, pour être le trésorier de l'équipe de Jésus, si je peux m'exprimer ainsi, l'équipe de ceux qui l'accompagnaient jour après jour, ses apôtres, ses disciples, les 12 qui vont accompagner Jésus partout. L'Évangile nous dit qu'à un certain moment, nous ne savons pas quand, mais peu importe, Judas a été choisi pour être leur trésorier. Puisqu'il nous est dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, que Jésus et ses disciples étaient accompagnés par quelques femmes, quelques personnes plus riches, qui assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens matériels. Judas tenait la caisse, et l'évangile nous montre qu'à un certain moment, il a commencé à attacher plus d'importance à cette caisse qu'à la raison d'être de la vie qu'il menait, c'est-à-dire accompagner Jésus et le voir accomplir son œuvre sur cette terre. Judas va finir par sombrer, et pour 30 pièces d'argent, il va remettre Jésus aux chefs religieux qui avaient l'intention de le tuer et qui sont parvenus à leur fin. Il y a un texte dans la première lettre de l'apôtre Paul, où l'apôtre Paul dit à son disciple, son élève, Timothée, « L'amour de l'argent est à la racine de nombreux maux. » L'amour de l'argent est la racine, est une racine de nombreux maux. Judas va tomber. Judas va céder à l'amour de l'argent. Nous voyons d'ailleurs dans le texte qui a été lu tout à l'heure, au chapitre 12, lorsque Jésus entre dans une maison où on l'avait invité, sans doute peut-être pour le remercier parce qu'il avait ressuscité Lazare. Il nous est dit que c'était à Béthanie, la ville où habitait Lazare et ses sœurs, Marthe et Marie, que Jésus est invité. Et là, pendant que la sœur de Lazare, la sœur de celui qui était mort et qui a été ressuscité par Jésus, lorsque Marie arrive et oint Jésus, oint les pieds de Jésus avec un parfum de très grand prix, Judas, qui visiblement était un spécialiste et qui était peut-être un expert, capable d'évaluer tout de suite le prix des choses, évalue le prix du parfum à 300 deniers dans la monnaie de l'époque, ce qui correspond à peu près aujourd'hui au salaire d'un ouvrier pour une année. Alors, je ne connais pas le salaire exact de l'ouvrier, ça dépend de l'entreprise peut-être aussi, mais vous voyez, imaginons simplement que ce soit 300 jours de SMIG, donc ça fait quand même pas mal. Eh bien, Marie va donner tout cela pour remercier Jésus. Nous allons revenir dans un instant au cas de Marie, mais arrêtons-nous juste une seconde encore sur le cas de Judas. Judas dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Judas n'a plus qu'une pensée en tête, l'argent et la valeur de l'argent. Alors qu'il est accompagné, alors qu'il accompagne jour après jour Jésus, le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu. Judas est maintenant aveuglé complètement. Alors après Judas, parlons de Marie. Marie est un des personnages de ce texte. Marie, elle a quelque chose de curieux, c'est que l'Évangile ne parle que 3 fois d'elle. Je parle bien de Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, parce qu'il y a plusieurs Maries dans l'Évangile. Marie, lorsque l'Évangile en parle, et il n'y a que 3 textes dans l'Évangile qui en parlent d'elle, Marie se retrouve toujours aux pieds de Jésus, à genoux, aux pieds de Jésus, comme si c'était sa position préférée. Dans le premier texte, dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, elle sert Jésus avec sa sœur Marthe. Jésus est invité chez elle, et au bout d'un certain temps, pendant que Jésus parle, les 2 sœurs travaillent en cuisine et au bout d'un certain temps, Marie s'installe aux pieds de Jésus, arrête de servir, parce que je dis cela parce que le texte semble indiquer qu'au départ, Marie servait aussi, mais qu'elle s'est arrêtée de servir. Alors sa sœur fait la remarque à Jésus, « Seigneur, ça ne te gêne pas que ma sœur ne m'aide plus et qu'elle soit à tes pieds, en quelque sorte. Et vous savez ce que Jésus répond ? Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Certaines traductions de la Bible, de l'Évangile disent « Marthe, tu t'inquiètes et tu fais beaucoup de bruit ». Vous savez, des fois, quand on veut attirer l'attention, on fait du bruit. Je pense qu'on doit pouvoir faire la cuisine discrètement, et puis on peut la faire aussi d'une manière un peu plus bruyante. Hein. On peut faire cogner un peu les casseroles, il y a certainement un moyen de faire la... Je ne suis pas cuisinier, c'est pour ça que je dis cela, mais j'entends parfois, je ne dis pas que ma femme fait du bruit quand elle fait la cuisine, hein. C'est pas ça du tout. Mais je sais que si on veut attirer l'attention, on sait comment faire. Il suffit de faire un peu plus de bruit. J'ai remarqué, ma femme gardant des enfants, de par son métier, j'ai remarqué en observant ces enfants-là, que lorsque je parle avec ma femme pendant qu'elle fait ce travail, il m'arrive quelquefois de lui parler, lorsque les enfants veulent attirer notre attention, parce qu'on ne les regarde pas, alors ils essayent de faire du bruit, ou alors même mieux, une bêtise. Parce que là, ils savent qu'on va s'arrêter de parler. Marquez souvent cela avec les enfants, ils n'aiment pas que les adultes parlent entre eux et ne les regardent pas. Marthe a attiré l'attention de Jésus parce que Marie, sa sœur, avait arrêté de servir. Alors Jésus lui fait remarquer qu'il y a une chose essentielle, c'est de l'écouter quand il est là. Marie est aux pieds de Jésus, elle va se jeter à ses pieds lorsque son frère meurt et que Jésus arrive, entre guillemets, en retard, selon elle. Et là, nous la voyons se jeter à nouveau aux pieds de Jésus pour loindre ses pieds d'un parfum de grand prix. Alors j'ai dit il y a un instant que ce parfum avait coûté une année de salaire pour un ouvrier. Une année de salaire. J'ai dit une année de SMIG environ, un peu plus pour les ouvriers qui gagnent un peu plus que le SMIG. C'est une somme énorme, notamment pour quelqu'un qui gagnerait le SMIG. Une année. Pour un milliardaire, ce ne serait pas une grosse somme, une année de SMIG. Mais une année, je crois qu'il vaut mieux penser chacun pour soi à une année de son propre salaire. Alors que vous gagnez le SMIG, ou fais attention parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont encore peut-être pas au travail, mais que vous gagnez une année de SMIG, ou quel que soit votre salaire, imaginez une année de salaire. C'est une somme importante. Pourquoi Marie fait-elle cela? Je crois que Marie ne compte pas. Marie veut simplement exprimer à Jésus son appréciation et son amour pour ce qu'il a fait pour elle. Sa vie a été brisée pendant quelques jours, pendant 4 jours. Et Jésus est venu, elle croyait que c'était trop tard, mais Jésus, dans sa toute-puissance, a ressuscité son frère. Marie ne sait pas sans doute comment remercier Jésus. Elle aurait pu simplement lui dire « Oh merci Jésus, c'est vraiment gentil de ta part ». Mais elle pense qu'il faut faire plus. Jésus ne demande rien. Mais c'est d'elle, de son cœur, que vient cela. Alors, elle donne sans compter une somme énorme qui va choquer Judas. Mais on choque peut-être facilement Judas, surtout avec les questions d'argent. Elle donne sans compter et en faisant cela, elle ressemble à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a donné sans compter. Quelqu'un qui a donné aussi... J'aime employer le mot d'extravagance, parce que donner un an de salaire pour remercier quelqu'un, c'est quelque part, entre guillemets, extravagant. Mais n'est-ce pas ce que Jésus, ce que Dieu lui-même a fait, selon l'Évangile, lorsqu'il a donné son fils Jésus? C'est énorme. Quelqu'un a employé un jour ce mot, c'est pourquoi je l'emploie à mon tour, en parlant de l'amour de Dieu, d'un amour extravagant, c'est-à-dire qui dépasse toutes les limites du raisonnable. Donner son propre fils pour sauver l'humanité. En cela, Marie ressemble à Dieu, à Jésus. Elle agit, elle aussi, selon le cœur de Dieu. Il y a Marthe, maintenant. Marthe, chaque fois qu'on la voit, elle est debout. Elle n'est pas à genoux. Marthe, quand on la voit, elle sert. La première fois, quand dans l'épisode que j'ai rappelé tout à l'heure, elle sert en cuisine, elle prépare le repas probablement, et elle se plaint de ce que sa sœur, Marie, ne l'aide pas. Et nous voyons ici que Marie sert encore une fois, au chapitre 12. Il nous est dit « Marthe servait, mais elle ne proteste plus. » Depuis quelques jours, il s'est passé quelque chose. Sa vie, à elle aussi, a été bouleversée. elle ne l'exprime pas de la même manière que sa sœur. Elle l'exprime en servant et en ne protestant plus. Son cœur a été bouleversé, elle aussi. Vous savez, nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous ne nous exprimons pas tous de la même manière. Nous avons peut-être tendance, quelquefois, à juger les autres d'après ce que nous sommes nous-mêmes. Vous me direz, mais comment pouvons-nous les juger autrement? Nous n'avons que cette seule mesure. Mais notre mesure à nous, Jésus le dit toujours, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. On vous mesurera de la mesure dont vous avez mesuré les autres. En quelque sorte, ne jugeons pas les autres d'après ce que nous sommes nous-mêmes. Ne jugeons pas leurs actions d'après ce que nous, nous faisons. Marie, c'est Marie. Marthe, c'est Marthe. Mais nous remarquons que dans leurs deux vies, un changement a eu lieu. Marie est toujours à genoux, mais elle exprime sa joie, son bonheur, par une extravagance. Marthe exprime son bonheur, sa joie, par un service différent, un service qui apprécie, un service qui ne proteste plus. Alors il me reste encore deux, trois personnages, notamment cet homme mystérieux qui s'appelle Lazare. Ici, Lazare est à table. Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Est-ce que vous connaissez une parole célèbre de Lazare? Non, certainement pas. On ne parle que deux fois de Lazare dans l'Évangile. Et jamais il ne dit un mot. La première fois, bien sûr, parce qu'il est mort. La deuxième fois, il est là, à table, mais il ne dit rien non plus. Cependant, sa vie a été changée. Il ne parle toujours pas, mais il a la capacité de parler. Je pourrais dire aussi que la première fois, dans l'épisode où Marthe et Marie ont reçu Jésus, Lazare est absent. Donc il ne parle pas. Nous n'avons aucune parole de cet homme, Lazare, mais sa seule présence à ce repas est un témoignage à lui tout seul. Vous savez qu'il y a des gens qui ont ce don de pouvoir parler sans ouvrir la bouche. Je me souviens d'une chrétienne chinoise que j'ai entendue il y a une bonne vingtaine d'années, si ce n'est pas un quart de siècle, qui venait de Chine continentale et qui nous parlait un jour lors d'une conférence évangélique et qui disait, quand on lui disait, parce qu'elle venait de nous expliquer qu'en Chine continentale, il y avait de nombreux chrétiens et qu'il y en avait de plus en plus tous les jours. Et nous lui disions, mais dans ce pays qu'est la Chine continentale, vous n'avez aucune liberté dans le domaine de la religion. Comment faites-vous? Vous ne rendez pas témoignage auprès des autres. Vous ne parlez pas de votre foi. Alors elle nous disait non, parce que c'est interdit de partager sa foi. C'est interdit de faire du prosélytisme. Mais alors comment faites-vous pour être de plus en plus nombreux? Elle disait, mais parce qu'il y a une chose toute simple. Nous vivons notre foi. Nous la vivons. Nous vivons dans la sérénité. Nous sommes en paix. Nous sommes heureux de vivre, malgré les difficultés énormes qu'il y a dans notre pays, surtout pour des chrétiens. Et elle dit, les gens, en nous voyant vivre comme cela, nous posent des questions. Ils nous disent, mais comment fais-tu? Comment faites-vous pour vivre ainsi, avec les difficultés dans lesquelles nous sommes? Et alors elle dit, comme nous sommes des gens polis, nous répondons simplement aux questions des gens. Et nous leur expliquons pourquoi nous sommes comme cela. Évidemment, impossible de ne pas parler de Dieu pour expliquer notre joie, notre paix et notre sérénité. Lazare est un peu comme cela. Lazare n'a même pas besoin de parler, mais le seul fait qu'il soit là est un témoignage à lui tout seul. Il était mort, tout le monde le savait. Il est resté 4 mois dans le tombeau, tout le monde dans la région le savait. Il est resté 4 jours dans le tombeau. Jésus 3. Il est resté 4 jours dans le tombeau et le 4e jour, Jésus est venu, l'a appelé et l'a ressuscité. Et sa seule présence au repas, parmi les convives, est un témoignage de la puissance de Dieu, parce que tout le monde sait que c'est Dieu qui l'a sauvé, que c'est Jésus qui l'a ressuscité. Alors, pour terminer, il me reste à vous dire 2 mots sur les Grecs qui viennent voir Jésus au verset 20. Il nous est dit qu'il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête, et ils ont demandé à Philippe, l'un des disciples de Jésus, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Ce qui est curieux ici, c'est que Jésus ne semble pas répondre à la question, mais Jésus va indiquer une direction. Jésus va parler du grain de blé que l'on fait tomber en terre et qui doit mourir pour pouvoir revivre, pour pouvoir pousser, pour pouvoir produire la semence, pour pouvoir produire, pardon, le blé. Et Jésus prend cela comme une image, lui-même, parce qu'il nous faut aussi parler de Jésus. Il est le personnage central. Tous les autres tournent autour de lui. Certains le rejettent, certains l'acclament aujourd'hui, mais demain vont le demander sa mort. D'autres en ont fait leur ennemi, et puis chacun se positionne. Judas l'a côtoyé, mais va l'abandonner misérablement. Et puis les autres vont se laisser convaincre par lui, transformer par lui et par son enseignement. Les Grecs se voient indiquer le chemin. « Si quelqu'un veut venir après moi, disait Jésus, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il se renie lui-même, qu'il ne veut plus avoir affaire à lui-même, mais qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » L'apôtre Paul prendra d'autres images. Il parlera notamment dans l'épître aux Galates, dans sa lettre aux Galates, il dira « J'ai été crucifié avec Christ. » Je suis mort avec Christ. Voulant dire par là que si je crois que Christ est mort pour moi sur la croix, c'est comme si j'étais mort avec lui à mon ancienne vie, et comme Jésus est ressuscité d'entre les morts, je revis maintenant pour une autre vie. C'est aussi l'image du baptême que Paul prend dans sa lettre aux Romains lorsqu'il dit que nous avons été ensevelis dans sa mort comme dans le baptême, et que lorsque nous ressortons de l'eau du baptême, nous ressortons pour une vie nouvelle. Parce qu'il y a aussi, et je termine par là, il y a surtout Jésus. Jésus est présent dans chacune de ces scènes. Il est partout. Bien sûr, il va mourir. Il a ressuscité Lazare. Il a comblé Marie. Marthe va continuer maintenant à le servir, mais d'une manière différente. La foule va le laisser tomber. Les chefs religieux vont le faire mettre à mort et Judas ne le comprendra jamais. Mais Jésus, aujourd'hui encore, dit à tous ceux qui veulent s'approcher de lui, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, comme des fleuves d'eau vive qui jailliront de lui-même, parce que Jésus parlait du Saint-Esprit qui allait venir vivre dans tous ceux qui croiraient en Jésus. » Et bien que cette longue scène, que ces scènes différentes plutôt, de ce jour qui est le jour d'aujourd'hui, le jour des rameaux, que ces scènes puissent nous inspirer à, non pas à rejeter Jésus comme les chefs religieux ou la foule, à l'abandonner comme Judas, mais à nous approcher de lui, soit comme Marthe, soit comme Marie, je ne dis pas comme Lazare parce que vous n'êtes pas mort, mais mort spirituellement et ressuscité spirituellement, chacun à notre manière, selon notre tempérament, comme Marthe et Marie, puissions-nous le servir et l'honorer sur cette terre. Que Dieu vous bénisse.